Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin Marc Madio, Julien Beneteau, Pascal Duprat, Simon Dutin. Merci infiniment de votre fidélité. Vous nous écoutez en direct mais également en podcast. N'hésitez pas à aller télécharger, podcaster les deux premières heures d'émission. On a évoqué la finale la semaine prochaine du top 14 entre l'UBB et le Stade Toulousain. Ce sera évidemment à suivre en direct en intégralité sur RMC. Nous serons en direct du Stade de France. On a évoqué la Coupe du Monde des clubs. On a parlé du forfait d'Arthur Fils à Wimbledon. Et dans quelques instants, la seconde des GG autour de Tadej Pogacar, son attitude, sa façon de courir. Le champion slovène manque-t-il d'humilité? À 11h30 du basket, à moins d'une semaine de la présélection pour l'Euro, les Bleus ont enregistré leur premier forfait de taille. C'était hier, Rudy Gobert, peut-être le premier d'une longue liste. Victor Wembanyama, vous le savez, est également très incertain. Et puis 11h45, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et je vous promets, l'un des plus grands débats cachés de l'île. Non, je ne vous fais pas le même cirque qu'hier. Évidemment, allez réécouter ça en podcast. Est-ce que vous êtes remis du débat caché d'hier d'ailleurs, Julien?
Pas encore.
Non, pas encore.
Simon, non, pas encore. Non. Pascal?
J'ai eu du mal.
Oui, je comprends. Marc, t'étais pas avec nous hier, mais tu as écouté.
Oui, je vous écoutais.
Tu es d'accord pour dire que c'était le plus grand débat caché de l'histoire?
Évidemment.
Oui.
Évidemment. Mais c'était difficile de se situer, en fait, dans cette histoire.
Eh oui, jusqu'où on peut aller pour gêner un adversaire.
Parce qu'en vélo, ça se pratique beaucoup, tu sais, pour le coureur qui est dans ta roue derrière, donc il est habitué. Hein.
Ça se fait, je rappelle, évidemment, si vous voulez aller voir cette information sur rmcsport.fr, qu'un joueur de fléchette avait. Attendez, j'y retourne, vous me lancez là-dessus. Avait lâché un gaz, voilà, pour gêner son adversaire de lancer ses petites fléchettes. Voilà, ça n'arrive pas dans le vélo, tout ça.
Ah, ça se situe à d'autres niveaux.
Très bien. On va peut-être refaire ce débat en plus grand. Tu vois, un grand débat, tu vois, d'une demi-heure où on invite évidemment des invités, des spécialistes pour venir nous en parler. Bon, j'ai bien compris que je passais à autre chose, les amis. Alors, je vais débuter cette troisième heure avec cette citation d'Edouard Albee qui a dit un jour « Humilité n'est honte que pour celui qui humilie ».
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Avant ce départ de Dauphiné, j'ai aperçu Pogacar au Grand Prix de Monaco de Formule 1.
Il l'a fait, Tadej Pogacar. Hier, il n'avait pas apprécié d'arriver à 3. Il avait perdu ce sprint. Il prend sa revanche tout seul, comme un grand Tadej Pogacar.
Je l'ai aperçu dans les espaces vifs à Monte Carlo.
Non, mais il n'est vraiment pas une grosse tête.
Pogacar vient de remporter son sixième succès d'étape sur ce Giro. Il est là en train de boire un coup alors que les autres ne sont même pas arrivés. Ils sont à plus de 2 minutes.
23-0, c'est la piquette, Jack.
I had to hurry up to see the finish just of Ushka on Tour de Suisse, so it was just in time. So.
Alors moi, je te dis tout net, t'as pris le melon, Vincent. Et s'il y a une mauvaise ambiance ici, c'est ta faute.
Il lève les bras, Tadej Pogacar, 98e victoire en carrière pour Tadej Pogacar, impérial encore aujourd'hui.
Je l'ai vu dans l'étape, avec son maillot de leader sur le dos, il avait son coéquipier qui roulait, il est descendu à la voiture chercher des bidons pour les apporter à son coéquipier. Non mais il charrie.
Tu sais pas jouer, Jack, t'es mauvais.
Et oui, il est seul au monde. Et il aime le montrer. Tadej Pogacar sera encore le grandissime favori du Tour de France qui débute dans 2 semaines. Évidemment, c'est une compétition à suivre en direct en intégralité sur RMC. Après sa démonstration sur le critérium du Dauphiné, il y a une semaine dans ce studio, vous l'avez entendu dans la production, Marc Madio. Marc, mettez en garde Tadej Pogacar sur son attitude un peu désinvolte, sa facilité déconcertante et sa volonté de la montrer, cette facilité à qui veut la voir, notamment ses adversaires. Philippe Gilbert, le champion du monde 2012, tire également, cher Marc et cher Gégé, la sonnette d'alarme au micro de nos confrères en Belgique.
Ce que j'ai peur pour Pogacar, c'est que il va commencer à énerver. Il énerve déjà parce qu'il écrase, il domine, il se permet, on va dire, d'aller battre les meilleurs sur les classiques, de battre les meilleurs coureurs sur les courses à étapes, évidemment. Donc, il commence à déranger dans le milieu. Ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une réaction négative. Il faut jamais oublier de rester humble et de respecter ses adversaires.
Alors la musique qui fout les jetons, mais j'ai cette question. Tadej Pogacar, manque-t-il d'humilité? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Marc Madio?
Je pense qu'il s'est laissé aller pendant le Dauphiné, donc il doit faire très attention pour le Tour.
Ok, c'est une mise en garde une nouvelle fois. C'est un petit oui, si je comprends bien. Pascal Duprat?
Oui.
Julien Beneteau?
Je pense pas.
Tu ne penses pas. Il y a deux oui, il y a deux non. Alors la goutte de trop pour le champion belge, parce que vous avez entendu Philippe Gilbert, c'est Pogacar qui, durant ce critérium du Dauphiné, avait expliqué qu'il ne visait pas la victoire lors de la dernière étape du Dauphiné pour atteindre le cap des 100 victoires en succès en carrière sur le Tour de France. Et il avait mis son plan à exécution en laissant la victoire finalement au Français Lenny Martinez. Et voici ce qu'avait directement tweeté Philippe Gilbert. À quelques semaines du Tour, Tadej Pogacar commet peut-être la première erreur de sa carrière en manquant d'humilité envers ses adversaires. Fin de citation. Tu commences, Marc Madiot, pourquoi il manque selon toi d'humilité?
Qu'il agisse comme il le fait en termes de prestations de course. Il y a une étape, il s'est un peu relevé dans le final. Il gagne une étape, mais il se relève en disant « j'ai commencé ma récupération à 2 kilomètres de l'arrivée ». Qu'il le fasse, c'est une chose, et qu'il le dise, c'est plus ennuyeux. Qu'il le fasse et qu'il gère sa récupération dans la fin de l'étape parce qu'il a étape gagnée et classement général assuré, ça me choque pas, c'est pas un problème. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il le dise. Ça, c'est plus ennuyeux. Et le coup du ravito avant la dernière ascension par rapport à son coéquipier, sans demander à son coéquipier de ralentir, d'aller chercher le bidon, de se mettre en scène un petit peu en utilisant la présence de la caméra de télévision. Il sait qu'elle est là, la télé. Il sait qu'il va être filmé. Ensuite, il remonte tel un TGV le long de ses concurrents avant d'attaquer la dernière montée. Il y a plusieurs choses à percevoir là-dedans. Il y a le fait, les gars, vous voyez, je me balade, je vais vous mettre minable. Et puis il y a aussi le côté, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir jouer avec moi.
Mais oui.
Donc c'est qu'il le fasse au Dauphiné, il a bien fait de le faire pendant le Dauphiné, il a assouvi ses petites passions, mais il fera surtout pas ça dans le Tour de France, et je pense que son staff autour de lui l'a certainement déjà prévenu de l'attitude qu'il devrait avoir. Pour moi, le Tour de France qui arrive, pour Pogacar, c'est le tour de tous les dangers. Les choses paraissent tellement simples, tellement assurées, tellement certaines d'être accomplies, et tellement sûres d'être gagnées, que le principal ennemi de Pogacar sur le Tour, ce sera lui-même. Lui-même dans ses attitudes, lui-même dans son évolution de course, et lui-même qui peut être débordé par le déroulé de la course. Parce que le Tour, on le sait, c'est la plus grande course du monde, c'est la course où tout le monde est sous tension, sous pression, du premier au dernier kilomètre. Et la première semaine de course pour Pogacar peut être celle de tous les dangers. Moi, voilà un petit peu ce que je dirais à Tadej si j'étais son staff.
De tous les dangers, je reviendrai te voir, parce qu'on imagine que là, il peut basculer dans la gloire, et dans, on va dire, l'un des plus grands cyclistes de tous les temps. Mais attention, parce que ça peut se retourner contre lui. Et d'ailleurs, Philippe Gilbert parlait du cas Christopher Froome. Il prenait son exemple en disant, regardez, Christopher Froome, quand il débarque, il est frais, tout le monde l'adore, c'est génial. Et il finit malheureusement avec des jets d'urine dans l'école. Et il ne voudrait pas que ça se produise également pour Tadej Pogacar. Mais je reviens là-dessus, parce que Simon, je te voyais réagir au propos de Marc.
Non, j'ai pas compris pourquoi ce serait plus grave de faire ça au Tour de France que sur le
parce que la pression médiatique n'est Dauphiné. Pas la même. Le Dauphiné, on est entre cyclistes.
De ce que je crois connaître de cet oiseau, je vois pas pourquoi s'il le fait au Dauphiné, il s'empêcherait de le faire au
Tour de France. Nous verrons bien.
Nous verrons bien. Tu as raison. Mais foutez la paix à Pogacar. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, fichez-lui la paix. Vous avez qu'à rouler plus vite, pédaler plus fort, grimper les cols.
Attention à ce que tu dis.
Eh oui, mon cher Marc, mais bon, je suis désolé. Évidemment, une telle domination, ça agace. On lui cherche.
Et justement, parce que sa domination, elle agace. On lui cherche qu'il soit prudent dans ses attitudes.
Et bientôt, on va dire qu'il met des jeans délavés au lieu de mettre des. Bon, quel est le problème avec Pogacar? Fichez-lui la paix. Il est sympa. Il a toujours un mot pour aller féliciter.
Attention, tu dis, il est sympa. Il est pas sympa avec tout le monde.
Féliciter les adversaires, il parle aux médias quand ça va oui. pas, il félicite les adversaires, il se cache pas, il est pas hautain. Marc, moi je regarde le cyclisme depuis que je suis petit, on en a vu des champions hautains, des champions qui donnent rien ni au public ni à leurs adversaires. Je le trouve, même à ce niveau-là, je le trouve extraordinaire, alors que parfois en course il lâche le guidon, je sais pas, il montre de la facilité, que ça puisse paraître pour passer pour de l'arrogance auprès de ses adversaires qui eux sont à la limite, qui sont capot ouvert. Je comprends que ça puisse agacer, mais j'ai pas l'impression, je le ressens pas comme un manque de respect pour ses adversaires et pour une attitude irrespectueuse. Moi, justement, je trouve qu'il arrive à conserver une forme d'humilité que beaucoup d'autres, à cette altitude-là et avec le volume de succès qu'il a déjà engrangé, ne montraient pas ou ne montreraient pas.
Avant de donner le guidon à Pascal, Marc, tu as dit il n'est pas sympa avec tout le monde ?
Il n'est pas réputé être sympa avec tout le monde dans le peloton.
C'est la question que je voulais poser à Marc.
À qui ne dit même pas bonjour. Mais après, tout le monde ne dit pas bonjour à tout le monde dans le peloton. Hein. C'est juste un constat. Moi, je dis attention. Voilà, je dis attention, attention.
Marc, pour toi, il manque d'humilité ? Pascal.
Oui. Quand par exemple c'est à Combloux, je crois, pendant le Dauphiné, il se dit je me suis dépêché d'arriver parce que j'ai ma copine que je veux voir à la télé. Franchement, tu te mets à la place de ses concurrents, même s'ils dominent, même si on doit respecter le fait qu'ils dominent, tu te mets à la place de ses concurrents, t'as envie de lui jeter le vélo sur la tête quand t'arrives avec tes
amis. Bon.
Donc il pourrait faire l'économie de ça. Et après, moi j'ai presque envie de vous dire, mais encore une fois c'est toujours un brin provocateur, est-ce qu'il perd pas de sa lucidité, le garçon?
Non, okay,
parce que moi, il y a quand même pour ma part une comment dire, il y aura toujours un point d'interrogation. Je suis vraiment désolé, et ça jusqu'à sa fin de carrière, parce que j'ai l'impression que c'est extraordinaire ce qu'il est en train d'accomplir. La domination qu'il exerce sur le peloton est extraordinaire contre des adversaires qui sont extrêmement préparés, tout comme lui. Je veux bien que physiologiquement, il soit un tout petit peu meilleur, mais voilà, ça me...
Non, mais là, on s'écarte du débat.
Voilà. Mais malgré tout, attention aussi, parce que si jamais ça vient être révélé, il va se faire défoncer, ses collègues, ils auront plutôt tendance à le lâcher.
Non, mais évidemment, et ce sera normal. Mais
attention.
Là, ce sera normal. On se dit, est-ce qu'il manque d'humilité ? Moi, pour l'instant, je trouve pas qu'il manque d'humilité. Je trouve qu'il cherche encore plus à intimider ses adversaires. Pour moi, c'est de l'intimidation, il est le patron, il est le plus fort, et il le montre encore. Je suis d'accord avec Marc sur la fin de son propos sur Autour de France. Comment il va falloir faire? Je pense qu'il a peur. S'il a une crainte, et il l'a dit tout de suite après une fois qu'il avait gagné Dauphiné, c'est sur son équipe. Il a dit heureusement qu'Autour de France, il aura un des frères Yates avec lui, et je sais plus lequel, il y a un autre qui pourra l'aider un peu plus en montagne. Parce que je pense que le seul Julien, adversaire, c'est l'équipe
Julien
qui est revenu un peu en force, en nombre. Vingegaard qui est pas encore au niveau espéré, mais il a 15 jours, 3 semaines, voire pour être en forme. Donc je pense que c'est le seul truc où il se dit voilà, si et comme il l'a perdu il y a 2 ou 3 ans quand l'équipe de la Jumbo l'avait fait exploser. C'est là qu'il a un petit doute. Et effectivement, ce Tour de France va le faire passer dans une autre catégorie. S'il gagne, ce sera le quatrième, le Tour. Plus tout ce qu'il gagne, il sera vraiment dans le viseur des Merckx et des Hinault, avec une 5e victoire en ligne de mire. Donc il a vraiment, pour marquer l'histoire de son sport, ce Tour de France-là. Voilà, pour l'instant, moi je trouve pas qu'il manque d'humilité, je trouve qu'il intimide les adversaires.
Ok,
Julien. Si jamais tu avais joué, je pense que tu l'as fait. Tu as joué contre Federer. Tu as certainement quelquefois perdu. Si Federer, donc le champion que c'était, mais aussi le monstre de fair play que c'était, si Federer, il disait alors qu'il gagne 2-0 dans un tournoi du Grand Chelem contre toi, il disait écoute, je te laisse le troisième set, je récupère un peu, puis après je te gagne le quatrième. Ça te ferait plaisir? Tu dirais oui, il marque sa supériorité. Putain, oui, vraiment, c'est parce que là, il est en train de. Ouais. T'aurais pas envie de filer la raquette dans la tronche?
Tu as certainement raison. C'est pas. Effectivement, il aurait une image moins sympathique, et c'est ce que dit Marc. Attention, au sein du peloton, voilà, il y a cette domination qui, comment dire. En fait, il est victime de il est victime de son sport, et il est victime de sa force, entre guillemets, victime de son sport, parce que il domine dans un sport où il y aura une suspicion, et ça c'est terrible. Et il est victime de sa force parce qu'il est tellement fort, et il est fort partout, le mec, c'est ça qui est incroyable.
Et puis,
il va gagner Paris-Roubaix et il est capable de déposer tous les meilleurs grimpeurs dans le Ventoux. Donc c'est en étant comme ça, s'il veut être aimé de tout le monde, effectivement, il peut pas se permettre le moindre écart de comportement, de langage, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il a envie d'être aimé de tout le monde? Non.
Et puis, est-ce que Merckx, Hino, Anctil n'étaient pas des carnassiers qui eux aussi cherchaient à impressionner et à assommer d'abord psychologiquement leurs adversaires pour, je veux dire, il y a une dimension psychologique, il y a une dimension d'intimidation dans la course cycliste,
Marc. Oui, il y a une dimension psychologique qui est là.
Ça
évidemment.
Joue aussi. Je veux dire, et c'est juste qu'il fait son métier comme il veut, pour dominer. Ça se joue à la pédale,
mais tellement ça se joue dans aussi son dans attitude la pendant la course qui peut être son problème.
Je veux voir ma copine à la télé, je me dépêche d'arriver parce que je veux voir ma copine à la télé. C'est pas trop de l'intimidation. Ah, c'est un peu d'humour.
Ces attitudes en course, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. À part moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est l'histoire du ravito. Mais à la limite, qu'il s'en serve pour intimider la concurrence, c'est pas grave. Mais c'est l'accumulation.
S'il s'amuse à faire ça autour de France.
Ouais. Plantons le décor. On est à mi-tour de France. Il a 3-4 minutes d'avance. Il est en situation de se balader pour le reste du tour et il commence à enchaîner ses petites incartades.
C'est là où il se
C'est là où il va se foutre dans un bordel monstre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Faut avoir le contexte du tour. Dans le tour, les médias sont focalisés sur le match, sur la rivalité, sur l'incertitude de la course. Mais imaginons que le tour, au bout de 10 jours, est plié.
Ouais.
Potentiellement, le tour est plié, il a 3-4 minutes d'avance. Ah mais là, un autre tour commence pour lui. C'est pas le tour sur le vélo qui va décider. C'est tout ce qui va se passer autour, et la sphère du public et la sphère médiatique. Parce que les médias, qu'est-ce qu'ils vont avoir à se mettre sous la dent pendant la moitié du Tour de France s'il a course gagnée? Ils vont aller chercher les poux dans la tête, ici ou là, sur différents sujets. Alors, ça peut être le dopage, mais ça peut aussi être sur son attitude, sur les petites phrases ou les petits mots qu'il va pouvoir lâcher ici ou là. Et le danger pour lui, sur le tour, s'il est en situation de se balader sur le tour, le danger se situe à ce niveau-là.
Marc, tu as tout à fait raison, mais je pense qu'en fait, à l'échelle de la saison, on en est déjà là.
Oui.
C'est-à-dire qu'il gagne tellement.
Tant que la course ne va pas être décantée, et tant qu'il ne va pas être
surdominateur, par exemple, c'est ce que je te dis.
On va se polariser sur la
course. Ce que je te dis, c'est qu'à l'échelle de la saison, il domine tellement outrageusement qu'on en est plus à parler vélo, est à se dire
évidemment.
Ah, regardez ce qu'il fait, regardez, et machin. Et juste avant de te laisser la main, Julien, je trouve que c'est très injuste de le comparer à Chris Froome. Chris Froome, il ne donnait rien à personne. Il était, il avait une attitude chétive, il était renfermé sur lui-même, il avait peur du micro, j'ai pas l'impression qu'il partageait beaucoup, ni avec ses adversaires, ni avec ses coéquipiers. Je veux dire, il gagnait, mais il n'exprimait rien, aucune émotion, et il ne dégageait rien auprès du grand public.
Partageait même pas le bidon.
Pogacar, je trouve que il a cette candeur, évidemment, peut-être que on le voit un peu trop innocent, un peu trop gentil, comme vous voulez, je sais pas, mais au moins il y a quand même un partage et il y a autre chose qu'un coup de pédale et le regard froid à l'arrivée quand il gagne.
Julien, tu voulais réagir?
Non, je voulais demander à Marc justement si le parcours du Tour proposer cette situation où au bout de 9-10 jours, il a 2 ou 3 minutes d'avance.
On ne sait pas comment va se dérouler le départ de Tour de France. Hein. La météo joue toujours un rôle déterminant. Est-ce qu'on sera sous la canicule? Est-ce qu'on aura éventuellement du vent du côté du nord? Est-ce qu'il y aura des arrivées délicates? Il y a quand même des passages à risque en termes de chute. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Potentiellement, aujourd'hui, au vu du niveau de compétitivité qu'il a, normalement, il devrait pouvoir plier assez vite et assez facilement le tour. Il va pas mettre sa concurrence en situation de se mettre à espérer. Moi, je suis à sa place, j'essaie de broyer tout le monde le plus vite possible pour être tranquille. Pour être tranquille, on sait jamais ce qui peut se passer. Après, ce sera sa propre gestion de sa propre personne. Et c'est là où il peut se mettre en danger à travers des petits mots ou des petites attitudes qui peuvent se retourner contre lui. C'est tout.
Toi, t'es coureur. Évidemment, tu vas pas nous dévoiler tous les secrets, mais quand tu entends, j'imagine qu'ils parlent vélo, forcément, t'es dans le bus avec eux. Est-ce qu'ils parlent de Pogacar? Est-ce que tu sens qu'ils l'aiment bien? Est-ce que tu sens que...
Il est pas forcément... Il est pas haï, mais il est pas aimé non plus. Il y a une certaine neutralité. Il y a des coureurs qui sont plus sympas que lui ou qui dégagent plus de sympathie que lui. De ma propre perception que j'ai du peloton, je vais vous surprendre, mais Vingegaard paraît plus sympa. Alors que le retour et l'image qu'on a de
Jean Pinot aussi.
non, non, non mais Franchement, Vingegaard, vous pouvez le croiser dans un hôtel, dans un ascenseur, un petit mot gentil, un bonjour, un sourire. Pogacar, c'est pas forcément le cas. Quand il est face à une caméra et quand il est dans l'action de course, il sait utiliser ce qui se passe autour de lui, et il a raison, c'est son job. Mais l'impression qu'il dégage, on a tous, si on regarde vu de loin, on a l'impression le gentil c'est Pogacar et le méchant c'est Vingegaard. Ben, c'est pas forcément la vérité. Et moi j'ai été dans le peloton il y a quelques années passées et à une époque avec les Italiens, avec Moser et Saroni, on disait ah, Moser c'est le gentil et Saroni c'est le méchant. Ben en fait dans la réalité c'était l'inverse. Donc vous voyez, donc faut toujours se méfier et être prudent avec le renvoi d'image qu'on a des attitudes des uns et des autres.
Ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même image.
Et là, ils n'ont pas du tout la même image. Et moi, je suis un peu défenseur
parce que justement, Vingegaard, très froid.
Oui, justement face aux caméras, Vingegaard
Non, mais il ne sait pas faire. C'est quelqu'un de. Pour moi, Vingegaard, c'est quelqu'un de très simple, très simple.
Oui, il pédale dans sa cabane au Danemark autour.
Et puis il a pas cette facilité, de Pogacar sur les classiques, à se mettre en scène et à véhiculer une autre attitude.
Imagine Marc, c'est ton coureur, Pogacar, tu attaques un Tour de France, un énième Tour de France avec lui, tu vois ces petits trucs lors du Critérium du Dauphiné.
Ouais.
Quel est le discours?
Je bétonne autour de lui pour ne pas me mettre dans ces situations-là. Je parle pas de la course. La course restera la course. Et le déroulé de la course, c'est une chose. Mais tout ce qui est en périphérie de la course, sur le tour, ça prend une importance déterminante.
Bien sûr.
Et moi, je suis patron de Pogacar. Je maîtriserai la com et je mettrai en permanence quelqu'un à côté de lui.
Yannick Bru, donc. À l'instar de Yannick Bru à Bordeaux, donc.
Hein ça, c'était le débat de 9h.
Ne reviens pas là-dessus.
Est-ce que tu lui remontes les bretelles ou est-ce que tu lui fais comprendre? Comment ça se passe,
Marc,
concrètement?
Tu pourrais nous laisser parler, s'il te plaît?
Oh vas-y, réponds.
Non, vas-y, Marc.
Non, mais moi, j'essaierai d'anticiper la situation avec lui dans les entretiens qu'on peut avoir et dans la conversation quotidienne qu'on peut avoir avec le coureur. Je dirais, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça, regarde, observe. Enfin, moi, je vais reprendre un truc comme nous avait expliqué Cyril Guimard à l'époque où j'étais coureur. Il n'y avait pas les moyens des médias d'aujourd'hui, mais il y avait quand même un truc. Le premier truc qu'il nous disait, c'était regardez toujours la carte d'accréditation de la personne qui est en face de vous. Suivant qui il est, suivant pour quel média il intervient, ça doit vous orienter dans ce que vous allez dire et dans l'attitude et dans la prudence que vous devrez avoir. Ben moi, c'est ce que je dirais aujourd'hui à Pogacar. Regarde bien les accréditations des uns et des autres qui sont en face de toi quand tu es dans la zone presse. Parce que sur le Tour de France, on n'a pas affaire qu'à une presse de spécialistes du vélo et de gens qu'on connaît au quotidien sur toutes les courses. Ouais. Sur le Tour de France, on a
des non-initiés.
Pas des non-initiés, mais des gens qui sont là pour couvrir un événement, parce que le Tour est un événement. Mais une fois le Tour de France terminé, ils iront couvrir un autre événement. Et avant le Tour de France, ils ont couvert Wimbledon ou un...
Donc les questions sont différentes.
Et donc les attentes et les perceptions sont forcément différentes. Et moi, c'est là-dessus que j'insisterai auprès de mon coureur si j'avais un coureur comme Pogacar dans mes effectifs. Ce que je n'ai pas, mais ce que j'aimerais avoir.
Bah, j'imagine. Stéphane nous appelle au 32-16. On te le souhaite. Stéphane, bonjour.
Salut à tous, vous allez bien?
Bonjour, on va très bien Stéphane, merci de ta fidélité. Tu penses quoi de ce débat? Alors Tadej Pogacar, est-ce que pour toi, quand tu le vois comme ça à la télé, est-ce qu'il manque un peu d'humilité?
Non, franchement je pense qu'il manque pas d'humilité. Je pense qu'il est de sa génération. Et Dieu sait que moi je suis plutôt un supporter de Vingy, que j'aime beaucoup. Mais on peut pas comparer un mec qui vient du Nord avec une éducation tout à fait différente, avec une approche des gens qui dès la petite enfance doit être hyper respectueuse, à un gars qui finalement est très proche. Il est entre grand coureur et aussi par moments il réagit un peu comme un influenceur, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir de faire des images et d'avoir des propos qui choquent, qui sont marquants. Et attention, ça plaît énormément à certains jeunes qui regardent. Alors je parle pas des fanatiques du vélo ou autre, mais par moments je trouve qu'il a des réactions d'influenceur. Après, manque d'humilité, non, parce que franchement il a un caractère presque gentil, ça a été dit. Enfin, des mecs comme Anquetil, Merckx ou Hinault, qui étaient capables de descendre leur vélo pour casser la gueule à un mec. Aujourd'hui, si Pogacar faisait ça, qu'est-ce qu'on dirait, quoi? On serait là, non, mais quelle honte, et tout. Non, on a changé d'époque. Je pense que c'est un coureur de notre époque, qui joue beaucoup des médias, qui est pas bête, qui joue énormément de l'image qu'il va donner au moment où il va la donner. Et comme beaucoup de jeunes de cette époque, à un moment donné, il peut se carboniser un peu les ailes par des comportements qui seront pas super bons, et puis il va avoir un community manager ou un conseiller en com qui va lui dire non, là franchement tu peux pas faire ça, tu vas paumer des contrats, etc. Après, c'est un super coureur et je pense qu'il a le caractère qui va avec le niveau de ses mecs, c'est-à-dire que bon, il s'impose physiquement, il montre qu'il est le plus fort. Et oui, vous l'avez dit en tennis, mais moi je me souviens de matchs où Federer, de temps en temps, ça lui arrivait de lâcher un set pour mettre une roue de bicyclette au quatrième. Hein.
Non, mais c'est pas pour autant qu'il était condescendant et qu'il ne respectait pas son adversaire.
Non, il n'était pas condescendant parce que c'est pareil, Federer c'était un Suisse, c'est pas la même éducation. C'était pas. Mais regardez Wawrinka qui avait une éducation tout à fait différente. Bon, bah. Il y a des caractères qui sont pas les mêmes, mais alors attention, hein, je dis pas que ça me plaît ou que ça me plaît pas, mais ça me choque pas plus que ça dans l'époque actuelle, quoi.
Ok, bon bah c'est parfait.
C'est pas toi qui le vis, quoi, en fait.
Et aussi, peut-être que les adversaires.
Vingegaard, ça doit pas lui faire trop plaisir, j'imagine, quoi.
Merci Stéphane d'avoir été avec nous au 32-16. C'était un excellent débat, en tout cas, quoi. On voulait avoir à 2 semaines du Tour de France. On est très pressé d'y être. J'imagine que toi aussi, mais toi, tu vas y participer. Nous, pour le couvrir, ce Tour de France que vous suivrez évidemment tout au long des journées sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour un dossier basket. Rudy Gobert, forfait pour l'Euro. Ce sera en août prochain. Stéphane Brun sera avec nous, les amis. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Pascal Duprat, Marc Madiot, Julien Beneteau. Sachez que dans une dizaine de minutes, restez bien avec nous. Un très bon débat caché. Je vous ai préparé quelque chose de formidable. Vous allez devoir débattre sur l'instant, sur votre émotion, sur votre sensation, évidemment, c'est le principe. Mais tout de suite, un peu de basket.
RMC, le dossier des GG.
Et de 1, Rudy Gobert ne sera pas à l'Euro de basket en août prochain. Le pivot de Minnesota a décidé de renoncer à l'échéance estivale avec les Bleus. Une première pour lui depuis 2017, c'est important de le préciser. La raison de cette impasse, Rudy Gobert préfère préparer au mieux la saison prochaine NBA, lui qui vient de prolonger son contrat. Et voici ce qu'il disait en février dernier, ce qui avait déjà mis la puce à l'oreille, j'imagine, du staff des Bleus. Quoi qu'il arrive, j'espère que les gens comprendront que mon cœur a toujours été avec l'équipe de France. Je l'ai montré depuis 10 ans. Alors que comme disait Isabelle Nanty dans le film 3-0, les Bleus vont avoir peut-être un gros problème en défense. Victor Wembanyama est incertain lui aussi pour l'Euro, lui qui n'a plus joué depuis février dernier en raison d'une thrombose veineuse. Voilà pour les informations. Notre expert basket, Stephen Brun, est avec nous en direct de Monaco avant le match 4 de la finale du championnat de France entre Monaco et le Paris Basketball cet après-midi. Stephen, bonjour.
Salut Jean-Christophe, salut les GG.
Salut Stephen. Salut.
Évidemment, Stephen Brunch, à partir de 13h, tu nous donneras le programme dans quelques instants. Déjà, qu'est-ce que t'inspire ce forfait de Rudy Gobert? Est-ce que tu as un peu peur de l'hécatombe en bleu là pour l'Euro?
Peur de l'hécatombe, non, parce que je ne suis pas surpris par l'absence de Rudy Gobert, parce que déjà cet été aux Jeux Olympiques, son rôle avait énormément diminué dans la rotation et dans la hiérarchie du secteur intérieur de l'équipe de France. Victor Wembanyama, moi j'ai peu d'espoir sur sa présence à l'Eurobasket, parce que c'est un Eurobasket qui est très tard déjà, qui termine mi-septembre, et après il était obligé d'enchaîner directement avec le training camp des Spurs de San Antonio pour un garçon qui n'a pas joué 6 mois, revenir sur une intensité de compétition finale. Lui qui a découvert ce que c'était ce genre de compétition-là aux Jeux Olympiques l'année dernière. Moi, je pense que les deux ne seront pas là, j'y sais.
Ok, les deux ne seront pas là. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres forfaits? Est-ce que d'autres joueurs NBA pourraient manquer à l'appel?
D'autres forfaits, je crois pas. Moi, je crois qu'Evan Fournier sera là. C'est une nouvelle saison pour Evan Fournier, lui qui a toujours joué en NBA et qui avait des plages de repos énormes, puisqu'il a rarement fait les playoffs. Donc fin avril, début mai, il était souvent en vacances. Il avait le temps de régénérer son corps. Là, la saison européenne, il est allé au bout quasiment de toutes les compétitions avec Olympiakos. Il a terminé il y a une dizaine de jours à peine, et que la fin de l'Eurobasket s'enchaîne directement avec le début de saison de l'Olympiakos. Donc lui, il a eu besoin aussi d'une réflexion. Mais moi, je pense qu'Evan est trop attaché à ce genre de compétition-là. Lui qui n'a encore encore jamais gagné un grand titre avec l'équipe de France. Je pense qu'il a envie d'être champion d'Europe. Mais l'absence de Rudy et éventuellement celle de Victor Wembanyama, pour moi, elle n'entache pas les chances françaises dans cet Eurobasket, puisqu'il y a, je vous rappelle que les deux fers de lance aux Jeux Olympiques étaient Mathias Lessort et Gershon Yabusele, deux garçons qui seront vraisemblablement là. Et on a oublié un garçon qui n'était pas là à Tokyo, à Paris, pardon, qui s'appelle Vincent Poirier, qui est un des meilleurs pivots de l'Euroleague avec l'Anadolu Efes. Donc, moi, j'ai peu d'inquiétude, en fait. Vous, ça vous inquiète? Moi, ça m'inquiète pas.
Et Alexandre Sarr, ça peut lui permettre de se montrer un peu?
Écoute, Alexandre Sarr, lui, vraiment néophyte hein, dans le basket FIBA, très peu vu dans le jeu européen. Une première saison avec Washington où c'était la découverte de l'NBA, où tu gagnes très peu de matchs, tu joues des minutes, c'est un profil qui est un peu atypique. Est-ce que c'est pas un peu tendre, avec les prétentions d'être champion d'Europe, de venir avec un garçon comme ça qui ne maîtrise en rien le basket FIBA, qui est à des années-lumière de la saison régulière des Washington Wizards, où là c'était plutôt des matchs à la bonne franquette.
Julien Belletto.
Ouais, Steve. Normalement, les joueurs qui sont en Europe et en Euroleague, ils répondent tout le temps présent pour l'équipe de France, non ?
Ouais.
C'est ça.
Généralement,
et donc, pour toi, les joueurs NBA qui pourraient être concernés par l'équipe de France, c'est-à-dire qui sont dans le scope de Fred Fautou et de Boris Diaw, ils devraient tous répondre présents, à part Wemby et Rudy Gobert.
Ouais, après tout, ça dépend de ce que veut faire Freddy Fautou. Est-ce qu'il veut incorporer les jeunes? On pense à Zakaria Rizaché. Bilal Koulibaly sera là, lui qui était déjà là à Paris 2024. Il y a pas mal de jeunes garçons NBA qui ont très peu de minutes. Hein. Julien Paco Mdadier à New York, Ousmane Dieng qui va vivre un match 7 ce soir sur le banc d'OKC. Je dis sur le banc d'OKC parce qu'il n'existe pas dans la rotation de cette équipe-là. C'est beaucoup de garçons qui n'ont pas très peu de minutes en NBA, très peu de responsabilités. Donc, sachant qu'il va y avoir une longue préparation pour cet Eurobasket, je serais pas surpris que Freddy Fautou fasse appel à une liste très élargie, justement, pour déjà emmener ces garçons-là, voir de quoi ils sont capables sur d'éventuels matchs de préparation contre des bonnes nations européennes, voir comment ils peuvent se fondre dans un groupe France, voir comment ils peuvent s'opposer à des garçons qui ont l'habitude de ce basket-là. Mais il y aura pas mal de jeunes garçons de NBA qu'on n'a pas l'habitude de voir, dont on entend peu parler. Ouais.
Il y a Kevin qui nous appelle au 32-16. Je sais que c'est un fidèle de l'émission. Il adore le basket. Il est avec nous. Salut Kevin.
Salut JC. Salut Stéphane. Salut toute l'équipe.
Bon, est-ce que ça t'inquiète là, ce forfait de Rudy Gobert? On l'a appris hier.
Non. Alors Stéphane a amené pas mal d'éléments. En effet, on a une réserve à l'intérieur qui fait qu'on n'est pas inquiet. En fait, Rudy Gobert, c'est même peut-être un joueur qui potentiellement n'était pas sélectionné. En tout cas, il y avait débat, parce que si tu fais une raquette avec Vincent Poirier, Mathias Chaussor, Gershon Yabusele, et puis Stéphane, il y a un nom moi que j'aurais rajouté, c'est Jalen Horde, qui est un joueur du Maccabi Tel Aviv, qui a fait une très belle saison de Euroleague cette année. Donc en fait, on a un vrai vivier dans le secteur intérieur qui fait que Rudy Gobert, malgré tout le talent, et je suis pas un hater de Rudy Gobert, loin de là, en tout cas, il y avait discussion sur le fait qu'il soit dans le groupe. Ah non, pas du tout. Alors, c'est sûr, Stéphane, vraiment pas du tout. Je suis même plutôt partie des défenseurs.
Je suis pas là pour réhabiliter Rudy Gobert. Moi, je pense que malgré tout, s'il avait voulu faire l'Eurobasket, il aurait été sélectionné. Alors Rudy Gobert, on sait qu'il a beaucoup de détracteurs. Je vous rappelle qu'à Tokyo, quand on est médaille d'argent, quand on est vice-champion olympique, il est exceptionnel, Rudy Gobert. Oui, ça plaît pas à tout le monde. Oui, il a quelques carences offensives. Oui, parfois il a les mains pleines de pouces, mais ça reste quand même un mec de 2m16 qui est 4 fois meilleur défenseur NBA, qui est un protecteur de cercle,
qui a fait une très belle saison
sur le compte, qui a fait une saison. En deçà de ses chiffres standards, de ses années passées, mais qui est dans une équipe qui fait finale de conférence encore pour la deuxième année consécutive.
Donc, aussi.
Oui, qui a re-signé 3 ans, qui a fait des efforts sur le salaire pour pouvoir que cette. Mais attention à ne pas tomber tout systématiquement sur Rudy Gobert. Oui, son rôle a été moindre à Paris parce que la phase de poule a été compliquée, que Vincent Collet a dû trouver des solutions pour réveiller cette équipe-là. Maintenant, ne faisons pas de Rudy Gobert comme un peintre et un piètre joueur de basketball qui ne sert plus en équipe de France. Donc, pour
c'est
moi,
pas,
ça reste
c'est
quand
pas
même,
que je dis, c'est pas du tout.
Ça reste quand même une petite perte parce que c'est un garçon qui chaque été était là avec les Bleus. L'amour du maillot, moi, j'ai aucun doute qu'il a. Maintenant, Rudy Gobert, au-delà d'une saison où il a beaucoup joué de matchs, une finale de conférence, je l'ai dit. Rudy, il a des problèmes aussi perso, on va pas rentrer dans les gossips. Tous ceux qui sont sur les réseaux et ma femme la première n'hésite pas à m'envoyer tout ce qui se passe autour de sa vie privée. Il y a quelques soucis autour de la vie privée de Rudy Gobert, donc moi je suis pas surpris de son absence, mais pour autant c'est pas une bonne nouvelle.
Et comme disaient les inconnus, tout cela ne nous regarde pas. Oui Kevin.
il a une situation contractuelle aussi, il est dans il apparaît dans les rumeurs de transfert, donc on ne sait pas s'il sera toujours à Minnesota, donc c'est peut-être des éléments aussi avec ses agents qui font que il a besoin d'être aux États-Unis. Moi juste je voudrais revenir par rapport à Evan Fournier, j'ai une petite inquiétude quand même par rapport à Stephen sur Evan Fournier, par rapport justement à son lien à Rudy Gobert. On sait que ces deux gars de la même génération, la génération 92, qui ont tout vécu en équipe de France, y compris dans les équipes de France jeunes. Et est-ce que l'absence de Rudy Gobert va pas impliquer aussi l'absence d'Evan Fournier? On sait qu'ils sont très liés.
Je crois pas. Ils sont très proches. Ils sont très proches, Evan Fournier et Rudy Gobert. Mais à un moment donné, dans une carrière, tu fais pas des choix par affinité parce que ton pote est pas là. Et là, c'est pas son pote qui est pas sélectionné. C'est son pote qui décide de pas venir. Moi, Evan Fournier, son attachement pour le maillot bleu, la saison qu'il fait, parce que c'est un énorme risque pour lui de revenir en Europe du côté de la Piakos, où avec son passé, son CV de joueur NBA, il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Les attentes, il a répondu. Il perd certes en demi-finale de l'Euroleague contre Monaco, mais il met 31 points, la saison d'Evan Fournier en Euroleague, elle est exceptionnelle. Et moi, je veux qu'Evan Fournier soit là à l'Eurobasket en tant que leader offensif de cette équipe-là.
Oui, et puis si on faisait ses choix que par rapport à ses potes, tu serais évidemment resté dans les grandes gueules du sport, mon cher Stephen Brun.
Ouais, bravo.
On rappelle que l'Eurobasket aura lieu à partir du 27 août jusqu'au 14 septembre prochain. Ça va se disputer un petit peu comme une Coupe du Monde de foot, hein, dans plusieurs pays. Il y aura la Lettonie, ça Chypre, la Finlande et la Pologne. Sachez que dans 6 jours maintenant, il y aura la présélection de Frédéric Fotou pour cet Euro 2025. Merci Stephen d'avoir été avec nous. Un mot sur Stephen Brun qui commence dans 1h15 maintenant. C'est quoi le programme?
Bah écoute, à 1h15 de l'émission, moi, j'en ai aucune idée.
Surtout à 4 jours du premier tour de Stephen au championnat de France de plus de 40 ans.
Oui, je ne sais pas s'il va en parler. C'est quoi le sujet principal là? C'est quoi le gros sujet?
Le gros sujet, on va forcément se projeter sur la finale, la revanche de la demi-finale de la Champions Cup et la finale du Top 14 UBB contre le Stade Toulousain. On va refaire un petit point sur la Coupe du Monde des clubs après une dizaine de jours. Est-ce qu'on est satisfait ou pas? Donc moi, je continuerai à dire que c'est de la merde. Et
on terminera de notre émission des deux premières heures et puis voilà, c'est bon.
Et on terminera, on reparlera de basket bien sûr, de ce match 4 à Monaco et puis on fera un petit peu d'équipe de France aussi, comme on vient de le faire tous ensemble, les amis.
Parfait. Donc en tout cas, ce match 4, c'est évidemment à suivre sur RMC Monaco Paris. Basketball et si Monaco s'impose, il y aura un match 5 mardi soir à Paris pour le titre de champion de France. Ça va être absolument incroyable. Écoute, avec grand plaisir.
Non, parce que la dernière fois que tu es venu à Paris Basketball, à 3 minutes de la fin, tu t'es barré pour aller manger des petits fours. Tu respectes pas le basket, Jean-Christophe.
Alors, c'est quoi ton prono? Match 5 ou c'est payé ce soir?
Non, match 5.
Je serai là pour les petits fours alors, mon cher Stephen. Allez, à tout à l'heure en direct de Monaco. 11h44, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Ça va être grand. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Pascal Duprat, Julien Beneteau, Marc Madio. À partir de midi, les paris RMC évidemment, comme tous les week-ends de midi à 13h. On s'intéressera au troisième match de poule du Paris Saint-Germain face à Seattle. C'est demain soir, Seattle PSG. Évidemment, on vous donnera toutes les meilleures cotes. Mais pour l'heure, c'est le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Votre sensation, votre émotion, après ceci, parce que votre débat caché, c'est maintenant.
Ça chauffe entre les deux là.
Teddy, lorsqu'il est passé, Teddy l'a retenu par la cheville. Et Tuchidjili qui vient mettre un coup de tibia dans la tête de Teddy. Ouais, c'est très chaud, c'est pas judo ce qu'on voit.
Ah non, c'était pas judo. Vous vous souvenez tous de ce moment électrique en quart de finale du tournoi olympique l'été dernier entre Teddy Riner et Gouran Tushishvili, le géorgien qui avait totalement perdu ses nerfs après le hippon du champion français. Il avait d'ailleurs écopé de 6 mois de suspension pour comportement antisportif. Nouvel épisode cette semaine, vous l'avez peut-être vu dans la presse. Les deux rivaux se sont retrouvés à l'occasion des mondiaux à Budapest. Alors, Teddy Riner était absent des tatamis après son opération du coude, mais il était là pour remettre les médailles dans sa catégorie. Et donc, nouveau drama, Tushishvili a terminé deuxième, il est sur le podium et il refuse de serrer la main du français Teddy Riner sur RMC après cet épisode.
Faut pas oublier que c'est un sport de combat. Ça montre que même quand je suis pas là, bah ça gagne pas. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur lui. Aujourd'hui, c'est le meilleur qui a gagné. et on se souvient de toute façon tout le temps que des premiers. C'est une phrase que mes entraîneurs m'ont toujours répétée.
La violence.
Ils vont aller en vacances.
Évidemment, ah ouais. La grenade signée Teddy Riner. Hier, sur notre antenne, Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo, un ami de cette émission, a réagi à cet épisode entre Riner, son combattant, et Tushi Juili. Voici ce qu'il a dit.
Pour moi, déjà, Teddy n'aurait pas dû donner les médailles. Il est encore combattant dans cette catégorie. Il va jusqu'à LA. Et il n'aurait pas dû remettre les médailles. C'est toujours un peu gênant de remettre les médailles à tes concurrents, compétiteurs, voilà. Non, pas du tout, mais c'est pas la meilleure chose. La rivalité, elle est très 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 très, très forte entre les deux. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de ressenti.
Voilà pour les propos de Stéphane Nomis, le président de la Fédé de judo. Notre débat maintenant, on y vient, vous avez tous les éléments. Teddy Riner a-t-il fait une erreur? Oui ou non?
En faisant quoi?
Une erreur en faisant quoi, oui.
En remettant ses médailles à des concurrents qu'il va encore... Et bien
oui,
sûr.
Oui, bah Stéphane Nomis, je pense...
Oui ou non déjà?
Ah, oui. Raison.
Alors oui. Alors oui, Marc Madiot.
Oui aussi.
Oui aussi.
Petite erreur.
Pascal Duprat.
Oui.
Oui, Julien Beneteau.
Oui, j'ai pas envie de me battre avec mes collègues.
Oh bah comment ça, c'est le principe de cette émission, tu refuses le combat.
Et on te serrera la main quand même.
On dirait toucher Juili. C'est fou ça.
Non mais je veux dire, c'est comme Simon. Si on avait demandé à Cristiano Ronaldo de remettre la Coupe du Monde à Messi la dernière fois, tu vois, prends
c'est un bon exemple.
Je pense que oui, c'est tant que t'es encore, comme le dit Stéphane Nomis, tant que t'es encore un compétiteur et que t'es amené à affronter les gens auxquels, en l'occurrence, tu remets des médailles, c'est un petit peu déplacé. Et moi, je me mets à la place du Géorgien. Alors, tu sais que j'ai fait la petite blague à David hier, en sous-entendant que
il nous vendait
que le judo, c'était bon. Il nous a dit voilà, le Géorgien c'est une mèche courte, il y en a un comme lui et puis les autres sont respectueux. On peut aussi se mettre à sa place en disant ah, et en plus c'est enfin ça peut passer un peu pour de la provocation, de la condescendance de la part d'un Riner qui dit c'est bien les gars, bon je suis pas là, faut bien qu'il y en ait un qui gagne quand je suis pas là, et il se fait plaisir après dans l'interview quand même hein. C'est beau hein, même quand je suis pas là ça gagne pas, bon lui non plus il le porte pas dans son cœur, mais bon, tu vois, ça pimente un peu une discipline pour laquelle le très grand public a un petit peu de mal à se passionner hors Jeux Olympiques. Moi, je trouve ça pas mal. C'est
donc finalement, ça fait du bien. Ouais, Marc Madiot.
Ouais, on n'en aurait pas parlé. T'aurais pas mis dans ton débat caché le
judo. Non, bien sûr.
Donc je pense que c'est pas une bonne chose que Teddy ait fait cette remise de médaille. Et moi, je comprends l'attitude de son adversaire de pas lui serrer la main. Moi, il a eu raison.
Il a eu raison, Pascal Duprat.
Alors moi, je comprends pas l'attitude de son adversaire, mais néanmoins, je trouve que c'est pas logique qu'un athlète en activité remette des médailles à ses adversaires du moment, puisqu'il va continuer à combattre contre lui, donc c'est contre ses adversaires. Donc voilà, c'est pas logique. Je pense que la Fédé internationale de judo, elle aurait pu s'abstenir.
Et vous savez à quel point on adore hein, évidemment Teddy Riner, on a vibré sur RMC avec lui, mais c'est vrai que et on a eu ce débat il y a quelques semaines. On sent que Teddy Riner, alors là, on ne sait pas comment se passe une remise de médaille, comment c'est arrivé sur le tapis pour lui proposer, lui il accepte, il le fait, en plus dans sa catégorie, c'est-à-dire dans une autre catégorie, bon tout le monde aurait pu le comprendre, dans sa catégorie, c'est un peu particulier, mais Teddy Riner, il y a pas longtemps, il a dit sur tous les plateaux télé à qui veut l'entendre, moi si je me lance en politique, c'est pour être le numéro 1, c'est pour gagner, ça veut donc dire que je veux pas être ministre des sports mais je veux être président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres là, alors qu'il est encore athlète, qu'il veut se fixer un dernier objectif en 2008 à Los Angeles, est-ce que là il n'est pas en train de se disperser Teddy?
Non, je pense pas. Dans le cadre de sa fédération, il a été sollicité, c'est quand même le numéro 1 du judo mondial depuis un certain temps déjà, il était sûrement invité sur place et l'organisation et la fédération ont cru faire une belle action ou une bonne promotion en lui demandant de remettre les médailles. Je pense que chacun doit rester à sa place le temps où il est acteur de son sport.
Ok, donc il aurait dû rester à sa place, j'ai bien compris. Julien Beneteau, il est en train de faire des blagues avec la régie. Ça va Julien?
Oui.
Ça va, t'es réveillé? Vas-y Julien. On parle de Teddy Riner.
Ouais,
il est 11h53. Bon réveil.
Non, mais il se disperse pas. En fait, je pense qu'il est sursollicité, Teddy Riner.
C'est entre deux Olympiades, il prend le temps, lui, sportivement, il se soigne, il se fait opérer du coude, il prend soin de son corps, il fait pas toutes les compétitions. Il est très sollicité, il est sollicité pour reprendre une marque sportive qui était en difficulté après les Jeux Olympiques. On lui parle de politique, il s'exprime. Je sais pas s'il se disperse, parce que il a du temps devant lui. Ouais. Mais comment, Pascal?
Cela dit, s'il se disperse plutôt bien, parce qu'à chaque fois qu'il se disperse, à chaque fois qu'il prend son temps,
oui, il gagne
une médaille d'or. Donc, je pense qu'il serait de bon ton de lui faire confiance, parce qu'il va encore gagner.
Voilà, on espère, en disperser. Tout cas, en 2028. Bon, j'ai bien compris votre sentiment. Oui, évidemment, c'était peut-être une erreur. C'était peut-être pas à lui de remettre les médailles, mais on est bien d'accord tous pour se dire que c'est pas bien grave tout ça.
Non.
Et qu'en tout cas, ça nous a fait vivre un moment magnifique sur RMC avec cette interview de Teddy Riner qui a de nouveau mis.
On a hâte qu'il se retrouve sur le tatami.
Oui, surtout nos amis.
Mais ça va être une bonne promo pour la prochaine rencontre.
Bien sûr.
Bon, voilà, Teddy, reviens vite au judo et comme ça, viens lui mettre une nouvelle raclée, comme ça, on en parlera de nouveau dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup les GG d'avoir été avec nous ce matin. Merci Julien, merci Pascal, Marc, Simon, passez une très très belle semaine. On va se retrouver évidemment samedi prochain à partir de 9h et il sera question du Tour de France. Marc, ne t'inquiète pas, on sera une semaine du Tour, on en parlera.
Un petit peu de top 14 peut-être.
Mais évidemment, la grande finale du top 14 samedi soir prochain entre l'UBB et le Stade Toulousain. Bref, ça va nous régaler. Soyez bien présents au rendez-vous sur RMC tout au long de la semaine et notamment dans le Moscato Show du lundi au vendredi de 15h à 18h. Je vous souhaite une très belle journée, mais GG, vous aussi, chers auditeurs, restez avec nous parce que votre programme continue. Les Paris RMC, nous allons évoquer le Paris Saint-Germain, son troisième match de poule face à Seattle. Seattle PSG, on vous donne toutes les meilleures cotes dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
Salut.